Ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Bonsoir. Si je dis bonsoir, c'est parce qu'il est tard, il est presque minuit en ce jeudi 15 décembre. Nous venons d'enregistrer un épisode à chaud avec Agathe Lambray et Mathieu Coache, à chaud après la diffusion par TF1 en première partie de soirée d'un entretien accordé par le président de la République à l'Élysée, enregistrement de l'entretien dimanche dernier, diffusion ce soir. Long entretien où le président n'a pas déclaré sa candidature, mais a adressé un certain nombre de messages politiques. Et donc, on va vous raconter tout ça dans cet épisode avec Agathe et Mathieu en ce mercredi 15 décembre, donc à 130 jours de l'élection présidentielle du choix des Français. Salut à tous les deux.
Salut Philippe. Salut Mathieu.
Salut. Alors toi Mathieu, tu es à Bruxelles où tu suis ce soir donc le président de la République qui est un sommet européen puisque l'émission sur TF1 a été enregistrée dimanche et diffusée ce soir, mais donc tu es à Bruxelles pas très loin de lui.
Exactement.
Et toi Agathe, tu es chez toi.
Exactement, à la maison.
Bon, moi je sors de plateau là où j'étais juste dans la foule de l'émission. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Comment vous avez vu cette émission, vous qui suivez Emmanuel Macron partout et qui le suivez
ça ressemblait surtout à une volonté, en tout cas je trouve, de déminer toutes les questions sensibles qui pourraient lui être posées quand il sera candidat ou tous les points qui lui seront reprochés par ses adversaires. En fait, on avait l'impression qu'il préparait simplement le terrain à sa future candidature, purger les petites phrases, les malentendus, l'affaire Hulot, la gestion de la crise sanitaire, c'était quand même un gros exercice. Il devançait en fait les critiques des oppositions. C'est un peu le sentiment qu'on avait aussi avec cette émission.
Oui, toi, Mathieu. Alors moi je suis un peu surpris par le choix de cette interview maintenant, parce que déjà j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview le 14 juillet 2020, c'était face à Gilles Boulot et Léa Salamé, c'est exactement la même chose. Donc c'était absoudre un peu les péchés, donc Benalla, les gilets jaunes, tout ça, et c'était les mêmes réponses. Benalla, il ne l'a pas protégé, affaire d'État, affaire d'été, les gilets jaunes, c'était la faute d'une loi de 2015 qui avait fait augmenter les prix de l'essence, traverser la rue, on ne l'a pas bien compris, mais en fait, il avait raison. Est-ce que vous avez un regret ? Non, je ne fonctionne pas comme ça. En fait, Emmanuel Macron a un défaut, et ça, on le sait, c'est qu'il ne sait pas dire pardon. Il ne veut pas faire de mea culpa. D'ailleurs, il en a parlé un moment dans cette émission. Et on se demande finalement pourquoi il s'obstine à se remettre dans cette position qui ne lui réussit pas. Donc, moi, je n'ai pas compris du tout l'intérêt. Et là, je parle de l'Élysée, pas de la chaîne qui a organisé cette émission, mais du côté de l'Élysée, je n'ai pas compris l'intérêt de remettre le président dans cette position.
Oui, même si il y a quand même des moments où il fait quand même son mea culpa, par exemple sur la petite phrase quand il disait dans des gares il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien, ça il dit ça ne se dit pas, et d'ailleurs il fait référence à Éric Zemmour qui a dit qu'Emmanuel Macron était rien récemment, et il dit ça c'est terriblement blessant. Maintenant effectivement c'est pas son exercice préféré, mais l'autre objectif je pense pour lui aussi ce soir c'était vraiment de montrer mais presque de façon excessive un président humain. Et parfois, on frôlait un peu le pathos quand il y avait des gros plans sur Emmanuel Macron qui disait qu'il aimait les Français, qu'il avait appris, qu'il avait été naïf. Ouais. Il y a eu beaucoup de petites phrases comme ça. Il parle de son rapport
mais
à l'argent aussi.
Même sur les petites phrases, même quand il dit pardon, il peut vraiment pardon.
Il voulait vraiment montrer aux Français qui il était. Je suis pas sûre qu'on connaisse mieux Emmanuel Macron ce soir, mais en tout cas, lui, il a voulu montrer que c'était quelqu'un d'accessible et d'humain, parce qu'on sait que son gros point faible aujourd'hui, c'est pas tant la stature présidentielle ou l'efficacité, c'est plutôt cette image qu'il a toujours d'un président un peu déconnecté.
Mathieu disait que tu n'es pas sûr qu'à l'issue de cette émission, on perçoive de façon plus précise la nature et qui est le président de la République.
Mais non, mais c'est-à-dire que je pense que les gens vont lui retrouver finalement le même défaut qu'avant. Parce que même, tu as raison Agathe, il fait un petit mea culpa sur les gens qui ne sont rien, mais il explique aussitôt que ça vient de deux choses, d'une société de décontextualisation où on sort tout de son propos. Et donc il explique que pendant 10 minutes, il avait tenu un propos et qu'évidemment on a sorti cette phrase de son contexte et que finalement, il le regrette sans le regretter. Donc
oui, c'est vrai.
Donc c'est toujours toujours la même chose avec Emmanuel Macron. Il n'a jamais tort et les gens ne le comprennent pas. Donc moi, je pense simplement, et d'ailleurs c'est marrant, j'ai eu quelques échanges avec des amis qui ne sont ni journalistes ni dans le milieu politique et qui, en gros, ont entendu une forme de baratin ce soir et qui, par ailleurs, s'impatientent un peu sur ce suspense entretenu d'une candidature, pas candidature. Et ça, je crois que ça va vite agacer les gens, finalement. Donc, et personne n'est dupe. Hein.
Parce que là, tout le moment, puisque effectivement, les journalistes, les deux journalistes de TF1 essayaient de lui poser les questions, tout en sachant que le président de la République ne répondrait pas sur son éventuelle candidature. Donc ça donne des choses comme dont je ne fais pas de politique. Évidemment que c'est, mais d'ailleurs, c'est évidemment une émission très politique et évidemment qu'elle a une fonction politique de entre guillemets, comme on l'a dit tout à l'heure, de purger un certain nombre de sujets avant d'entrer de plein pied dans la campagne présidentielle. Mais du coup, il y avait, moi, une sorte de voile de, je dirais pas d'insincérité, mais il y a des moments où on avait l'impression, on voyait la ficelle de la communication qui était très, très voyante, notamment dans le côté où le ton ralentissait, la voix plus grave et une sorte de moment d'introspection. Alors là, la caméra s'approche de son visage. Mon Dieu,
c'est le goût d'Emmanuel Macron pour le théâtre, c'est pas nouveau. On a vu un certain nombre de discours où effectivement il joue beaucoup pendant ses prises de parole, mais ça d'ailleurs il ne s'en est jamais caché. Moi je suis pas sûr que ce soit le plus dérangeant finalement, on s'est un peu habitué à ça. Mais la sincérité.
Mais vous parce que
parlais,
vous le suivez.
Moi effectivement c'est dérangeant.
Vous le suivez, vous l'entendez parfois pendant une heure et demie parler dans des discours, vous le connaissez par cœur. Mais les Français qui le regardent et qui suivent la politique peut-être d'une oreille distraite et qui ce soir, au lieu d'avoir leur programme habituel sur TF1, ont eu 2 heures du président de la République, cet aspect-là, ils le connaissent peut-être pas, enfin, ils le connaissent certainement pas aussi bien que vous.
Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il a essayé d'expliquer. Il fait pas non plus totalement semblant, hein. Il cache pas... Enfin, il dit qu'il se projette à plus long terme. Il dit quand on fait la révolution, on se projette. Enfin, il fait pas non plus... totalement semblant tout le temps. Parfois, il y a des petits sourires entendus avec les journalistes quand il dit « je ne fais pas de politique ». Maintenant, il voulait aussi expliquer pourquoi il est dans cette posture aujourd'hui. Je pense qu'il sait qu'il y a le risque d'être insincère. Et d'ailleurs, il dit, il sous-entend presque que c'est moins confortable d'être à sa place que d'être candidat. Il dit « si j'étais candidat, je pourrais pas prendre les décisions difficiles que je prends aujourd'hui ». Et puis après, je trouve qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie dans le procès que lui fait l'opposition parce que tous les présidents en fin de mandat ont fait ça. Et
absolument.
Quand Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur TF1, on était le 29 janvier, on était même après la période d'équité.
Et d'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas que sur TF1.
Nicolas Sarkozy avait aussi été interrogé sur sa candidature et il avait dit « je ne me déroberai pas ». En fait, il avait un peu pris rendez-vous avec les Français et c'est ce que fait aussi Emmanuel Macron.
Oui, mais par exemple...
Moi, je suis assez d'accord avec toi, Agathe. Simplement, le fait d'utiliser en quelque sorte sa position de président de la République pour faire une belle campagne et avoir un prime time sur une grande chaîne ce soir, c'est tout à fait normal. Finalement, c'est le jeu et effectivement, l'opposition n'a rien à dire là-dessus parce que tout le monde a fait la même chose.
Non, ça se ferait pas au Royaume-Uni, ça se ferait pas en Allemagne, ça se ferait pas aux États-Unis, ça se ferait pas au Canada, ça se ferait pas en Australie. Voilà.
Oui, on parle de la France.
Ça se ferait en France ou la 5e République, mais ça se ferait pas dans
le démocratie. D'interview certainement.
Absolument. En revanche, impensable.
Mais ça c'est sûr. Mais ce qui peut être reproché néanmoins à Emmanuel Macron, et c'est la seule critique que je fais à cette interview d'ailleurs, c'est quelque part la raison d'être de cette interview. Pourquoi se met-il dans cette position ce soir? En plus, je vous rappelle le titre de l'émission quand même. Hein, c'était
Où va la France,
où va la France, je crois. Ouais. On ne sait pas du tout où va la France là, hein. C'est-à-dire qu'on sait un peu ce qui s'est passé pendant le quinquennat, on a revisité les casseroles du quinquennat, mais on n'a aucun élément ou quasiment aucun élément sur la suite.
Pour résumer, il y a des moments où c'était pas où va la France, mais notamment la première partie de l'émission, c'était plutôt comment ça va, Monsieur le Président, parce que aussi beaucoup, il était beaucoup amené à s'exprimer sur ce qui avait été difficile ou pas dans les Gilets jaunes, y compris sur Samuel Paty. Enfin, moi, j'ai été frappé que la première question sur Samuel Paty, ça soit sur la manière dont il avait ressenti ce moment-là et parce que ça avait été difficile pour lui. Au fond, la question qu'on se pose sur Samuel Paty et les questions, et ça a été un moment un moment tragique pour l'ensemble de la société française et qui aura marqué ce quinquennat. Enfin, la question qu'on se pose, c'est pas comment le président de la République a vécu ou pas ce moment-là. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas la première question. Et je suis un peu frappé par ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y avait une impression, et c'est pas uniquement lié au président de la République, mais aussi à la manière dont l'entretien était mené. Il y avait quand même parfois un côté de Emmanuel Macron parlant, interrogé sur la manière dont Emmanuel Macron a vécu ce moment important du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Et c'était la même chose la France, le 14 juillet 2020. L'interview dont laquelle je faisais allusion,
c'était exactement la même chose. C'était aussi « Où veut aller Emmanuel Macron ?»
Oui, c'est
ça. Parce qu'un des autres objectifs ce soir, c'était aussi de décliner sa vision de la France et de montrer une image de présidence et de président apaisé, en contraste aussi avec la société violente et triste et décliniste en miroir.
Mais bien sûr,
de ce point de vue-là, qui serait celle d'Éric Zemmour.
De ce point de vue-là,
Mais quand il fait ça, quand par exemple il est interrogé, d'ailleurs il n'est pas interrogé sur Éric Zemmour directement à ce moment-là, mais il parle de Joséphine Baker et il lit. Donc il avait préparé ça parce qu'il avait une lettre devant lui avec une lettre écrite à propos de Joséphine Baker par des élèves. Et il cite des prénoms. Et dans ces prénoms, il y a des prénoms qui ne sont pas des prénoms du calendrier chrétien. Et que d'une certaine manière, implicitement, il répond ainsi à ce que Éric Zemmour avait dit sur les prénoms. Évidemment qu'il fait de la politique. Quand il parle des fonctionnaires et que d'une certaine manière, sans même citer le nom de Valérie Pécresse, il attaque Pécresse très clairement en se positionnant sur une ligne, pour résumer, de gauche. En tout cas plus à gauche sur la question de la réforme de l'État et au fond de dire il ne s'agit pas d'agiter des chiffres sur le nombre de suppressions de fonctionnaires, il faut d'abord, pour être sérieux, il faut dire où, comment, qu'est-ce qu'on enlève, où. D'une certaine manière, on aurait pu lui faire la même critique sur son programme de 2017. Il promettait peu ou prou 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires.
Donc
il y a quelque chose, une forme, je dirais pas d'insincérité, parce que effectivement il y a un jeu politique qui fait qu'il n'est pas encore candidat, il le sera dans quelques semaines, mais pour les gens qui ont regardé ce soir, c'était évidemment une émission très politique. Et le fait qu'au fond, ça tourne autour du pot de « je me demande si, mais en même temps, vous comprenez bien que… » Au fond, c'est assez… Combien de Français ne votaient pas pour Emmanuel Macron ont changé d'avis ce soir en se disant « je vais voter pour lui ».
C'est un peu du jus de crâne. À mon avis, ils ont un peu trop réfléchi au concept de l'émission avant de faire l'émission. Mais bon, ça, c'est... Non, Agathe ?
Non, mais juste, je pense que de façon très prosaïque, Emmanuel Macron n'a pas été très audible ces deux derniers mois, parce qu'on parlait que d'Éric Zemmour et des Républicains, qu'on fait quatre débats. Et en fait, il a aussi envie d'exister, d'imposer ses thèmes avant les vacances de Noël et tout simplement de les réimposer tout court, parce que ces derniers temps, on courait un peu derrière les propositions des Républicains, et cette émission, elle a aussi tout simplement vocation à le faire entendre.
Mais là, on parle de communication, on parle de stratégie d'occupation de l'espace ou de l'espace médiatique.
La plus ciblée, d'ailleurs, Agathe, t'as raison, la plus ciblée dans cette interview, même s'il n'a pas prononcé évidemment le nom de ses adversaires, ça reste Valérie Pécresse, je pense, sur les fonctionnaires. Et on en parlait lors du dernier podcast. Emmanuel Macron a joué le match le plus longtemps possible avec Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, notamment, parce qu'il le voulait comme adversaire. Il pensait que face à Xavier Bertrand, il n'y aurait pas de problème. Ouais. Et là, je peux vous dire que ça a vraiment changé du côté de l'Élysée, du côté des proches d'Emmanuel Macron, qui sont extrêmement inquiets par la candidature de Valérie Pécresse, parce que là, le match n'est plus du tout joué d'avance.
Oui, oui. Bon.
Donc elle est plus difficile à cerner et à attaquer que Xavier Bertrand, mais ça ne veut pas dire que Xavier Bertrand aurait été un adversaire facile, je pense pas.
Peut-être pas, mais en tout cas c'était l'idée qu'on avait Emmanuel Macron.
Bon, au fond, si on, parce que les émissions comme ça, même si elles sont regardées par des millions de Français, qu'est-ce qu'il en reste 15 jours après, 2 mois après, 3 mois après, qu'est-ce qui restera de cette émission comme souvenir vague dans l'esprit des Français qui auront regardé ce soir?
Bonne question. Agathe, je te laisse
la verrière verrière de Buren dans la salle des... C'est superbe. C'est-à-dire que c'est verrière refaite en bleu, blanc, rouge, c'est magnifique.
Très, très beau, hein.
Et encore, Philippe, je ne sais pas si tu l'as vu en journée, quand le soleil reflète les couleurs sur les...
Enfin, je l'avais vu avant que Buren rajoute ses couleurs bleu, blanc, rouge, mais effectivement, c'est magnifique. En lumière, c'est magnifique.
Oui, c'est très beau.
Moi, c'est ce que je retiens pour l'instant. Non, mais je sais pas ce qu'on en retiendra. Non, mais franchement,
phrase des gens qui sont rien, c'était quand même, je trouve, une phrase très très forte, et c'est un mea culpa assez clair pour le coup. Là, il cherche pas des excuses comme sur le traverser la rue ou.
Il dit que c'est sorti de son contexte.
Oui, mais il parlait plus des autres phrases. Il revient particulièrement quand même. Il revient particulièrement sur cette petite phrase. Et puis aussi, sur son rapport aux Français, je trouve que c'est intéressant parce qu'il a vraiment cette obsession de montrer aux Français qui il serait en disant « Je ne suis pas celui que vous croyez, j'aime les gens, je suis bienveillant. » Et c'est incroyable d'avoir à ce point à le dire, en fait.
Mais oui, c'est ça qui m'est... C'est fou. Mais voilà. Comme tu le dis, le fait qu'il ait besoin de le dire alors qu'il est au pouvoir depuis près de 5 ans, ça montre bien que ça n'est pas... c'est un aveu, d'une certaine manière, d'une incompréhension, en tout cas, d'une partie de l'opinion vis-à-vis de lui. Je ne parle pas de l'ensemble des Français, mais une partie de l'opinion, finalement, ne sait toujours pas exactement qui il est ou plutôt quel est son rapport à la France et aux Français.
Et d'ailleurs, j'ai noté une phrase là, que je suis en train de relire. Il dit « Je reste avec la volonté de bousculer les choses, mais j'ai beaucoup plus de respect pour chacun. » C'est étrange quand même.
Il n'en avait pas avant. Évidemment qu'il en avait avant.
C'est ça.
Mais le fait de devoir le dire, c'est étrange. Ouais.
Et c'est aussi parce qu'il a été vraiment détesté à un moment par certaines personnes. Son image s'est améliorée, mais je pense que quand on a vécu ça, on ne l'oublie pas. Il sait qu'il faut qu'il corrige absolument... considère être un malentendu.
Il dit aussi dans l'interview, il faut protéger la fonction, c'est ce que j'ai appris, et par tempérament, je ne protège pas. Donc voilà, ça, là encore, il a appris, voilà. Bon, on retiendra peut-être ça, oui, les leçons d'Emmanuel Macron pendant ces 5 ans. Mais je ne suis pas sûr que ce soit déterminant pour la suite.
C'est aussi par rapport à lui, c'est incroyable aussi la différence entre le début de son mandat où il disait lui-même qu'il voulait transgresser parfois presque avec violence et quitte à pas entendre ce que voulaient les Français et ce qu'il a appris aujourd'hui. Il parle beaucoup d'apaisement, de bienveillance, d'une méthode différente d'exercer le pouvoir. Et insincère, j'en suis pas sûre. Et je trouve que ce qui est assez frappant, c'est quand on a entendu l'extrait de sa voix, quand il parle sur l'affaire Benalla. Et sa voix est incroyablement plus jeune. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais sa voix s'est vraiment métamorphosée. C'est pas du tout la même voix. Et on voit qu'en fait, Emmanuel Macron a été transformé, je pense. En tout cas, sa voix a été transformée par ce mandat. Et si la voix dit quelque chose, ce n'est pas anodin. C'est pas la même personne qu'au début de son quinquennat, je pense.
C'est presque un clin d'œil, mais la formule, alors je ne sais pas si elle a été préparée ou si elle lui est venue spontanément, mais la formule sur l'affaire Benalla, ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire d'été.
Non, on l'a déjà entendu, cette formule.
C'était une formule utilisée par Benalla sur TF1, été-là 2018, dans une interview avec Audrey Crespo-Marin, où il disait « c'est une affaire d'été et pas une affaire d'État
». C'était repris par tout le monde à l'époque.
C'est assez curieux que ce soit et c'est Ariane Chemin qui avait révélé l'affaire Benalla dans le Monde, qui a rappelé ça tout à l'heure dans le Monde. C'était assez curieux que spontanément ce soit la formule qui lui vienne en tête. Bon, je vais vous laisser aller vous coucher. Toi, Mathieu, à Bruxelles. Toi, Agathe, à Paris. Moi, je reviens tout à l'heure en matinale pour raconter tout ça, enfin pour reparler de tout ça.
Puisque tu vas pas beaucoup dormir parce qu'il est 23h56 au moment où on termine ce podcast. Et je vous rappelle que la matinale commence à 6h.
C'est exactement
bonne nuit,
ça.
Philippe.
Merci. Bonne soirée à vous. Salut.
Allez, bonne soirée,
bientôt.
Philippe. Salut.
Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du Service Politique, notre balado, notre podcast. D'ailleurs, j'ai reçu quelques messages de clin d'œil de gens qui s'amusent que j'utilise le mot balado plutôt que podcast. Eh bien oui, je dis balado comme les Canadiens qui tiennent à notre belle langue française. Donc on dit balado diffusion au Canada plutôt que podcasting. Et donc voilà, notre balado du Service Politique. Vous êtes en tout cas nombreux à l'écouter et à nous faire part de vos remarques. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques jours pour un prochain épisode. Et puis abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. À bientôt.